C'est notre part dans ce combat. Nous avons quelque chose à faire. Ça revient, si je peux remettre le texte, Éphésiens 6. Lorsque Paul, s'adressant aux chrétiens, il leur dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous » Donc là, ils ont quelque chose à faire. « De toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres ou les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Vous voyez, Paul s'adresse directement à ces chrétiens d'Éphèse et leur dit « Dans ce domaine, vous avez un rôle, vous avez une part. » Et il leur dit cela « Fortifiez-vous, revêtez-vous, prenez. » Donc on va s'arrêter sur cette part qui nous revient ce matin au travers de ce plan. Quand prendre les armes? Quand faut-il les prendre? Que signifie prendre les armes? C'est une image, bien sûr. Paul veut dire quelque chose de précis. Et puis ensuite, on terminera par toujours se souvenir de quelqu'un. Je ne vais pas donner son nom, je vais laisser un peu le suspense. Non? Il n'y a pas de suspense? C'est normal. C'est normal. D'abord, quand est-ce qu'il faut prendre ces armes? Quand Paul dit « prenez ces armes ». S'imagine bien que pour des soldats, quand ils doivent partir au front, ce n'est pas au moment où ils arrivent au front qu'ils vont commencer à s'habiller, à s'équiper, à vérifier leur armement. C'est quelque chose qu'ils font avant, bien évidemment. Et ils prennent soin d'être prêts, bien sûr, lorsque l'ordre est donné de partir au combat. Et c'est bien sûr l'idée que Paul aussi donne dans ce texte lorsqu'il dit, après Éphésiens 6, 10 et au verset au verset 12, au verset 13, c'est pourquoi il dit « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. » Et au verset 14, il dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Littéralement, « Ayant mis à vos reins la vérité pour ceinture. » Ayant déjà sur vous la vérité pour ceinturer. La même chose pour le reste. Donc on voit bien que pour Paul, l'idée, c'est d'être prêt avant le combat. Ce qui se passe, bien sûr, c'est que pour un chrétien, comme je l'ai déjà dit, il est toujours en combat. Enfin, même, je ne sais pas, mais... C'est la réalité. On est toujours dans le combat. On ne peut pas se dire ce qui se passe probablement dans certaines guerres où il peut y avoir des temps de paix où voilà, on essaye de faire d'arrêter, les combats s'arrêtent, etc. Puis ils peuvent reprendre un peu plus tard, c'est ce qu'on voit ce qui se passe en Ukraine, on essaie de tout arrêter, puis on ne sait pas si tout s'arrête, tout peut repartir. Là, quand on parle du combat spirituel, c'est un combat permanent. Ça veut dire qu'il faut toujours être prêt. Si on est toujours en combat, il faut toujours être équipé. On ne peut pas se dire, voilà, aujourd'hui on se repose, on prend des vacances, on fait autre chose et puis on verra bien quand le combat va recommencer. La difficulté, bien sûr, quand je dis on est toujours en combat, c'est qu'on n'a pas forcément le sentiment d'être toujours en combat. Non ? C'est ça. Il y a des moments où on sent, voilà, ouais, on sent. Là, il n'y a pas de doute. On sent qu'on est dans le combat. Avec les circonstances, les événements qui arrivent, les situations auxquelles on fait face, on sent qu'on est dans le combat. Et puis, il y a des moments où on n'a pas le sentiment d'être dans ce combat spirituel. Tout semble aller bien dans notre vie personnelle, notre vie familiale, au plan de la santé, le travail, les choses matérielles, financières et autres. Enfin, voilà, il n'y a pas de persécution particulière. On n'a pas l'impression d'être dans ce combat spirituel. Quand on n'a pas l'impression, et parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans ce combat spirituel, la tentation, c'est de baisser la garde. C'est ça la tentation. Et baisser la garde, ça veut dire, pour nous, en termes de ça, ça veut dire, bien sûr, en termes de vie de prière, par exemple, ou d'engagement spirituel, ou de lecture de la parole, la connaissance biblique, qui est si importante, la participation à la vie d'Église. Et donc ça, c'est le danger. Paul dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il dit, il faut que vous ayez sur vous cette vérité. Il faut la mettre. En fait, la particularité, bien évidemment, la différence avec le soldat, c'est qu'une fois qu'il est habillé, équipé, il est équipé une fois pour toutes. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a son habit, il a ses armes, enfin voilà, il est équipé. Mais pour le chrétien dont Paul parle, quand il dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture », et ainsi de suite, ça c'est quelque chose que nous devons faire tous les jours, en fait. Alors, si on n'est pas prêt, bien évidemment, lorsque, pour reprendre le texte de Paul ici, parce qu'on est bien sûr dans la description des guerres qui se pratiquaient dans l'Antiquité, aujourd'hui c'est tout la même chose. Et l'Antiquité, c'était les flèches, par exemple, hein, ce qu'il appelle ici les traits enflammés du malin. Lorsqu'une flèche enflammée nous arrive dessus, c'est sans prévenir, et c'est pas le moment, c'est pas à ce moment-là qu'on dit tiens, voilà, il faut la cuirasse là. J'ai besoin d'être équipé, c'est urgent si je veux tenir. Non, c'est trop tard. La flèche elle est là. Et on n'a pas de protection. Se revêtir, prendre les armes, ça prend du temps, et en fait, ça dure toute la vie chrétienne. La meilleure préparation, on peut dire, au combat spirituel, c'est de se fortifier, c'est de se revêtir, c'est de prendre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Qu'on ait l'impression qu'on est dans ce combat spirituel ou pas, c'est de le faire tous les jours, parce que tous les jours on est dans ce combat. C'est tous les jours qu'on a besoin d'un peu plus de vérité, de revenir sur ces vérités. Quand il dit « il y a pour ceinture là, la vérité, donc la vérité pour ceinture. On a besoin de cette vérité de Dieu. Cette vérité qui nous est donnée par Dieu dans sa parole. On a besoin de ça tous les jours. Parce que dans le combat spirituel, on n'a pas, on n'est pas tous les jours dans la bataille du siècle. C'est pas tous les jours le débarquement des alliés de juin 44, vous voyez. Heureusement. On n'est pas tous les jours en face de quelqu'un qui est possédé et qui doit être délivré. Ça arrive. Ça arrive dans la vie de cette église, bien évidemment. On le voit dans le ministère de Jésus. Jésus a été confronté avec ces puissances démoniaques chez des hommes, des femmes, des enfants même. Et il a agi avec puissance pour délivrer ces personnes. Mais c'est pas quelque chose, même si c'était vraiment plus intense dans le ministère de Jésus que dans d'autres ministères, mais c'était pas la seule chose que Jésus faisait, son combat spirituel. Et pour nous, c'est la même chose. Il y a des jours qui sont plus mauvais que d'autres, mais tous les jours, on est dans ce combat. Et au niveau du combat quotidien, on peut dire, c'est plus dans nos pensées, dans nos sentiments que les choses se passent. Alors, c'est pas tous les jours la bataille du siècle, mais ce sont des escarmouches, des embuscades, des petites attaques. Et c'est là qu'il faut être vigilant. Parce que là, on n'a pas l'impression d'être dans ce combat. Il faut se dire, non, non, je suis dans ce combat. Ça peut se manifester par exemple au quotidien, par ces mouvements d'impatience que nous pouvons avoir, d'irritation, à partir du comportement de quelqu'un, des proches ou pas, peu importe. Enfin, je suis sûr que vous, comme moi, on peut avoir des fois, plusieurs fois par jour, des gens qui nous énervent. Vous n'en croisez jamais ? Des fois, c'est nous, hein. On énerve les autres. Mais qu'est-ce qu'on fait devant quelqu'un qui nous énerve ? Quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il doit faire, qui ne manifeste pas la compétence qu'il doit manifester à ce moment-là. Comment on réagit à ce moment-là ? Quelles sont nos pensées ? Vous les dites, vos pensées ? Je les lis. Les mêmes que les miennes. Dans ces moments-là, on peut avoir des paroles, ou des pensées, si on n'a pas des paroles. Et des fois, ça peut devenir des paroles. Mais des pensées, au moins des pensées, très méprisantes à l'égard de cette personne. Très accusatrices. Alors c'est vrai, peut-être qu'elle est incompétente, peut-être, mais on ne sait pas tout de son histoire. On ne sait pas pourquoi, peut-être qu'elle n'a pas été formée. Cette personne, elle ne peut pas être compétente. En tout cas, ce qui peut se manifester à ce moment-là, c'est notamment un esprit de condamnation, de jugement sur cette personne et donc de supériorité. Vous voyez, la puissance qu'on manifeste là, ce n'est pas la puissance de Christ, hein, c'est la puissance du diable, qui est là pour écraser l'autre, pour montrer que nous, ce n'est pas comme ça qu'on agit. Dans de tels moments, on est déjà dans ce combat. Et ça peut arriver tous les jours, ça. À l'improviste, parfois. Dans un moment où on ne s'y attend pas. Et si dans ce moment-là, je sais au plus profond de moi-même, parce que j'ai cette vérité pour ceinture, je sais, cette vérité-là, elle est ancrée en moi, elle est profondément en moi, je sais. Je sais que moi, je ne suis pas toujours à la hauteur non plus. Je ne suis pas toujours aussi compétent qu'il faudrait l'être. Et je me dis, mais Seigneur, toi, tu me vois tout le temps. Et quand tu me vois, je suis lent à croire, lent à obéir. Et comment tu réagis par rapport à ça ? Est-ce que tu t'irrites tout de suite ? Est-ce que tu es impatient ? Non, c'est bien. Il manifeste à ce moment-là de la patience, la grâce. Comme lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémané avec ses disciples, dans le moment le plus difficile pour Jésus, de tout son ministère, le moment le plus difficile, le plus crucial, c'était dans le jardin de Gethsémané. Il avait le choix d'y aller ou de ne pas y aller. D'aller à la croix ou de ne pas aller. Et à trois reprises, il a dit à son père, si tu pouvais, faire en sorte que ça n'arrive pas. Et là, dans ce moment-là, où il sent que ça va être intense, il dit à ses disciples, voilà, vous êtes mes proches, mes plus proches, amis, vous êtes mes disciples, mais est-ce que je peux vous demander une chose, c'est prier une heure avec moi, une heure. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Non. Alors vous allez dire, avec les 2 heures du matin, 3 heures du matin, c'est un peu le moment où on dort. Mais Jésus leur avait demandé. Il est allé à 3 reprises les retrouver, et à 3 reprises, il dormait. Enfin, je ne sais pas, moi, peut-être la première fois, je me dis, bon, la deuxième fois, je vais faire en sorte d'être... Non, mais je ne pense pas que j'aurais été meilleur qu'eux. À 3 reprises. Et comment Jésus réagit-il ? Avec impatience. Il s'irrite. Oh, il manifeste énormément de patience. Il leur dit, oui, je sais, l'esprit est bien disposé. Vous le constatez, hein. Quand on sait cela, vous voyez, quand on a cette vérité pour ceinture, quand on sait cela, on ne peut pas réagir de la même manière devant quelqu'un, oui, qui peut nous irriter, qui peut nous énerver. On ne peut pas réagir de la même manière. Il y a beaucoup de petites batailles, entre guillemets, comme ça, qu'on perd. Au jour le jour. Et ça prépare de grandes défaites, ça, vous savez. Prenez l'inquiétude, par exemple. C'est pas parce qu'on est des chrétiens et que Jésus a dit ne vous inquiétez pas qu'on ne s'inquiète pas. Hein. Vous savez, que certains sont peut-être là, sont sont morts d'inquiétude par rapport à une situation, par rapport à demain. Vous attendez quelque chose demain ou dans la semaine et vous êtes déjà saisi de crainte et d'inquiétude. D'où vient cette inquiétude? Cette inquiétude vient de cette volonté, de ce désir qu'on a de contrôler. On veut tellement. On voudrait contrôler notre avenir. On voudrait tout décider. Et ça, on ne peut pas. C'est parce qu'on ne peut pas contrôler, c'est parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, que nous sommes appelés à dépendre de celui qui contrôle tout. Et de lui faire confiance. Alors là, on a besoin de cette vérité pour s'induire. On a besoin de mettre cette vérité tous les jours, jusqu'à temps qu'elle soit, elle fasse partie de notre ADN, vous voyez, elle soit dans nos gènes, les gènes spirituels. Et dans ces moments-là, on sait comment réagir. Oui, parce que il y a des circonstances difficiles qui peuvent susciter la crainte, la peur du lendemain. C'est-à-dire, mais Seigneur, mais j'ai cette vérité pour ceinture. Je vais l'avoir à ce moment-là, des paroles qui révèlent cette inquiétude, cette peur et qui remettent en cause bien des choses. On est à ce moment-là dans la paix, dans la foi, dans la confiance. Parce qu'on est nourri de ces promesses de Dieu, de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a fait. Donc, quand est-ce qu'il nous faut prendre ces armes? Il faut les prendre tout le temps. Tous les jours. Ne jamais s'arrêter. Qu'on ait l'impression qu'on est dans le combat spirituel ou pas. Tous les jours. C'est la meilleure préparation. Et on en a besoin de plus. De plus en plus, tous les jours. Qu'est-ce que ça signifie de prendre, ce sera le deuxième point, de prendre les armes spirituelles. Quand Paul dit « prenez les armes », il s'adresse à des chrétiens. Donc il s'adresse à des hommes et des femmes qui possèdent ces armes. Les armes, c'est le salut, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie, c'est la foi. Paul, en fait, fait ici ce qu'il a fait un peu plus haut dans cette épître. Vous savez, quand dans le chapitre 3, il va leur dire qu'il priait pour eux, qu'il fléchissait les genoux devant le Père, selon son expression, et il priait, et dans ce qu'il demandait, à Dieu, pour ces chrétiens d'Éphèse, que Christ habite dans leur cœur, de sorte qu'ils puissent être mieux, de sorte qu'ils puissent mieux connaître l'amour de Christ. On dit, bon, un chrétien, c'est d'avoir quelqu'un qui, chez qui Christ habite, en qui Christ habite, et qui connaît l'amour de Christ. Et pourtant, Paul prie et demande ça. Il dit, voilà, oui, je sais que vous avez ça, mais je le demande quand même. Pourquoi est-ce qu'il le demandait? Sinon que Paul savait que c'était une réalité pour ces chrétiens d'Éphèse. C'était une réalité objective. Et pour eux, ils pouvaient le savoir et le dire à d'autres. Mais ce n'était pas forcément une réalité objective qui était devenue subjective, c'est-à-dire une expérience personnelle. Ça ne faisait pas partie forcément de leur expérience. Ils avaient besoin de goûter à l'amour de Dieu. C'est bien de savoir que Dieu nous aime, mais de goûter à son amour. C'est tellement mieux au travers des circonstances de la vie. Donc vous voyez ce que Paul fait ici, dans Éphésiens 3, dans cette prière, c'est dans un autre domaine, mais la même chose qu'il fait dans Éphésiens 6 lorsqu'il parle du combat spirituel. Paul leur dit, vous êtes sauvés, le salut, voilà. Il vous appartient, la foi vous l'avez, la justice, la paix. Mais vous en avez besoin. Et vous avez besoin de vous revêtir, vous avez besoin de prendre ces armes, de sorte que la moindre attaque de l'adversaire, votre réaction, elle soit spirituelle. Si je sais, je redis ce que j'ai déjà dit, mais si je sais que je suis accepté par Christ, c'est ça mon salut, c'est d'être accepté par la grâce de Dieu en Christ. Si je sais cela au plus profond de moi-même, lorsque une attaque vient sous la forme d'une critique, d'un rejet, d'un abandon, cela ne sera pas aussi dévastateur et destructeur que si je ne sais pas ça. Si je ne sais pas ça, ça va être dévastateur. Et si je sais que je suis accepté par Christ, le fait d'être rejeté par quelqu'un, ça peut me faire souffrir, bien sûr, ça peut Ça peut me toucher, bien évidemment, mais ça ne va pas me détruire. Ça ne va pas me dévaster. Parce que j'ai cette vérité pour ceinture. Je suis revêtu de cette vérité. Que Christ m'a accepté. J'ai ça sur mes reins. Vous vous souvenez quand Jésus va se trouver dans la barque avec ses disciples et qu'ils vont sur le lac de Galilée et qu'ils vont être pris dans la tempête. Vous savez ce qui s'est passé dans la barque? Certainement, un vent terrible va traverser cette barque, sauf Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il dormait. Alors ils vont le réveiller, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable. Quand vous êtes pris de panique de voir quelqu'un dormir à côté de vous. Non, c'est pas ça? Parce que vous faites les conjoints ensemble. Hein. Vous êtes pris de panique, vous réveillez l'autre. Hein. Il ne doit pas dormir, toi, maintenant. Et là, les disciples étaient pris de panique parce qu'ils se voyaient périr. Ils ne savaient même pas nager. Ils se voyaient déjà au fond du lac. Et Jésus était en train de dormir, donc ils vont réveiller Jésus, ils vont probablement le secouer, il était à l'arrière de la barque, nous dit le texte, et ils vont dire, mais maître, ne t'inquiètes-tu pas? Regarde ce qui nous arrive, et toi tu... Voilà, t'inquiète pas. Tu nous as oubliés alors. On n'est pas si important que ça pour toi. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va se lever, il va calmer la tempête, vraiment la première chose à faire. Parce que ça aura pour effet de les calmer aussi. Puisque leur panique, elle était liée à la tempête. Donc il en est la cause. Après, ils vont se retrouver dans un état plutôt normal. Et quelle va être la question que Jésus va leur poser? Vous vous souvenez la question qu'il va leur poser? Où est votre foi? Ah, je trouve ça intéressant. Il leur dit, quel est votre problème? Est-ce que votre problème, c'est le manquer de foi? Si leur problème avait été de manquer de foi, alors il dit, mais vous avez besoin de plus de foi. Allez chercher de la foi. Là où il y en a. Mais leur problème, c'était pas manquer de foi. Leur problème, c'était d'avoir la foi, mais de ne pas s'en servir. Où est votre foi, leur dit-il? Vous l'avez, cette foi, mais vous n'en servez pas. Vous savez ce que j'ai fait pour vous? Vous savez ce que je suis capable de faire? Ce que je vous ai promis? Vous savez tout cela? Mais vous ne l'utilisez pas. Vous savez, c'est exactement comme les Israélites quand ils sont arrivés dans le désert. Après avoir traversé la mer Rouge, le miracle spectaculaire de la part de Dieu pour les délivrer du joug égyptien, enfin, c'était extraordinaire ça. Et une fois qu'ils se retrouvent dans le désert, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'arrive un problème, une épreuve, une tempête, entre guillemets, ils font comme les disciples dans la barque. Ah, oh mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu t'inquiètes pas de nous, enfin on va mourir, on était beaucoup mieux en Égypte du coup. Là encore, Dieu aurait pu leur dire, où est votre foi? Et c'est la même chose pour nous. Si avant la traversée, on avait demandé aux disciples, vous croyez Jésus. Les puissants, vous aurez dit, ah ouais, et puis il vous aura raconté tout ce qu'il a fait les dernières 24 heures, oui. Mais ça aurait pris 3 heures. Voilà, tu te rends compte des miracles qu'il fait, enfin, les résurrections, les paralytiques, les lépreux, ouais, extraordinaire ce jeune-là. On n'a rien à craindre avec lui. C'est certainement ce langage qu'ils auraient tenu avec lui. Une fois qu'on est avec lui, voilà, on ne craint plus rien. Il se retrouve juste après dans la barque avec lui. Et dans la tempête. Et là, ils ont tout oublié. Vous ne vous reconnaissez pas? Vous demandez de lever la main quand même, mais vous vous mettez mal à l'aise. Mais c'est comme ça qu'on réagit. Hein. Avant d'aller dans la barque, avant d'aller sur la mer, oui, tu vas bien, Seigneur, mais oh là là, tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as donné, c'est extraordinaire. On sent la foi là, très présente. Pourrait déplacer des montagnes. Sauf que arrive la tempête, l'épreuve. Et là, le vent de panique. vérité. Hein. L'heure de vérité, ce n'est pas sur la plage. L'heure de vérité, c'est dans la barque, et quand la barque est dans la tempête. Mais allons plus loin. Qui c'est qu'il y avait dans la barque, parmi les 12 disciples, il y avait Pierre. Et Pierre n'était pas meilleur que les autres, certainement. Pierre faisait partie de ceux qui disaient à Jésus, mais ne t'inquiète pas, c'est lui qui parlait, parce que souvent il parlait pour les autres. Il y a des gens qui sont comme ça, ils parlent toujours pour les autres. Et Pierre en était. Donc il parlait pour les autres, et il disait, mais Seigneur, ne t'inquiète pas, parce que nous périssons. Ce même Pierre, quelques temps après, se retrouve dans une autre tempête, dans laquelle sa vie est aussi menacée qu'elle l'était dans la barque. Il est derrière les murs d'une prison, dans laquelle Hérode l'a mis, il l'a placé. Et s'il l'a placé dans les murs de cette prison, c'est parce qu'il ne pouvait pas le tuer. Il voulait l'exécuter comme il avait fait pour Jacques, juste quelques jours auparavant. Et voyant que ça plaisait à la foule et que sa cote de popularité montait dans les sondages, il était prêt à faire la même chose avec Pierre. Il s'est dit, oh là, j'ai déjà gagné 20 points dans les sondages. Vous pensez à quoi, vous? Vous avez une mauvaise pensée, là. J'ai déjà gagné 20 points dans les sondages, pendant gagner 20 avec Pierre si je l'exécute. Donc il arrête Pierre. Seulement, il ne peut pas l'exécuter parce qu'il y a une fête religieuse à Jérusalem. Et là, ce n'est pas possible. Donc il doit attendre la fin de cette fête. Ça dure une semaine et Pierre est enchaîné. Il est enchaîné à 4 soldats. Il y a des gardes partout. Et puis la semaine se passe. Et il arrive la dernière nuit. La dernière. Il sait que le lendemain, c'est la fin de la fête. Et que Hérode a décidé de l'exécuter. Comme il a déjà fait à Jacques. Jacques est vraiment mort. Il n'a pas été sauvé, il n'a pas été libéré. Il n'y a pas eu de miracle pour lui, il est mort. Donc, Pierre peut se dire que lui aussi, le lendemain, il peut être exécuté. Si ce n'est pas une tempête, ça. Non. Il est dans la tempête. Et que fait-il? Est-ce qu'il fait la même chose que dans la barque? Dans la nuit, en disant, Seigneur, ne t'inquiètes pas de ce que je suis en train de périr. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Tu dors toujours quand on a besoin de toi. Ce coup-ci, vous savez bien, c'est lui qui dort. C'est pas Jésus qui dort. C'est lui. C'est Pierre. Ce Pierre qui était dans la barque, alors que Jésus dormait et qui était pris de panique, le même Pierre, quelque temps après, il se retrouve dans une autre tempête aussi difficile que la précédente. Et là, il nous est dit qu'il dormait. Il n'avait pas pris de Valium, il n'avait rien pris de la sorte. Il dormait. En fait, il était dans la même position que Jésus quand il était dans la barque. La position que Pierre avait dû avoir. Même s'il ne dormait pas, il aurait pu être dans la traite. Il fallait bien que quelqu'un rame. Mais il aurait pu être dans la paix, comme Jésus était dans la chaîne. Vous voyez, il y a des moments dans les évangiles où les disciples dormaient. Ils auraient dû être réveillés à Gethsémané. Jésus leur dit, vous ne pouvez pas prier, veiller une heure avec moi? Non, eux dormaient. Ils dormaient dans le jardin de Gethsémané. Et ils auraient dû dormir là où ils étaient réveillés, dans la barque. On fait souvent les choses dans l'autre sens. Hein. Il y a des moments où on devrait être en train de dormir et puis on est réveillé. Et des moments où on est réveillé, on devrait être en train de dormir. Avoir la vérité pour ceinture signifie être tellement imprégné de ces vérités bibliques
sur Dieu, sur nous, sur ce qu'il a fait, que dans le combat spirituel, lorsque le combat arrive, de toute façon, la première chose qui vient, c'est cette paix.
Et c'est le témoignage qu'on a eu. Quand cette famille Laroche a traversé cette épreuve, ça n'a pas été forcément tout le temps comme ça, mais il y a eu des moments de grande paix. C'est la chose la plus précieuse à avoir dans ces moments-là. Dans le combat, lorsqu'on est sous les feux de l'accusation, on sait qu'on est justifié. On sait qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Et on fait la même chose avec toutes les armes de Dieu. Elles nous appartiennent, ces armes. Paul appelle cela les armes de Dieu, pas les armes de Daniel. Je parle de moi. Pas les armes d'Arlette, pas les armes d'Henri, pas les armes de Monique, les armes de Dieu. Ça rejoint ce qui a été dit ce matin. Trop souvent, on essaie de combattre avec nos armes. Pour cela, on a besoin de cette vérité pour ceinture. La vérité de l'Évangile qui renouvelle notre intelligence. Détruit ces pensées, ces mensonges. Vous savez qu'on croit beaucoup de mensonges. On les croit, ils font partie de notre vie, on s'en rend même pas. C'est un de ces pasteurs théologiens du XVIIe siècle, William Kern. Il a écrit sur le combat spirituel un livre. Vous savez combien de pages? 1200 pages. Je ne peux pas faire, hein. Et là, une de ses paroles, c'est la suivante. Il dira, en ce qui concerne le mensonge de Satan, il dit « Satan ne laisse pas de marques sur notre corps, mais des mensonges dans notre corps. » Il ne laisse pas de marques sur notre corps, mais il laisse des mensonges. Sa première œuvre dans l'histoire biblique, c'est, vous le savez, dans le jardin d'Éden. Dans ce qu'il va dire à Ève, ça sera une demi-vérité. Or, il ne dira pas qu'il n'avait pas le droit de manger tous les arbres du jardin. Non, non. Il fera juste une allusion. Ils avaient le droit, il ne leur dira pas, tous les arbres du jardin sont interdits. Il leur dira... Vous ne pouvez pas manger de tous les arbres. En fait, vous ne pouvez pas manger d'un seul arbre. Il n'y en avait pas que deux. Il y en avait pas mal. Vous voyez, c'était pas frontal. C'était pas leur dire, ouais, non, avec Dieu, c'est pas marrant. Vous n'avez rien le droit de faire. Non, c'est pas ça. C'était avec Dieu, vous n'avez pas le droit de tout faire. C'est plus subtil. C'était une demi-vérité. Et une demi-vérité, c'est un mensonge. Une exagération, c'est un mensonge. Il exagérait, bien évidemment. Des fois, on se cache là-dessus, on dit « Oh, je fais qu'exagérer. » Non, c'est le mensonge. C'est très subtil. Et je pense que, et je reviens à la pensée de ce matin, je pensais à ça, quand on a chanté ce cantique, sonde-moi, ô Dieu, afin de repérer les mensonges qui sont là, dans ma vie, auxquels je crois. Pour ça comme étant une vérité. Et à cause de cela, je suis manipulé. Pour ça, j'ai besoin de cette vérité pour ceinture, cette vérité de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de se pencher sur cette parole, et tous les jours. Parce que quand on a cette vérité, bien évidemment, on est armé. On terminera avec celui qu'il faut toujours se souvenir. Si on prend un peu de hauteur en histoire biblique, vous savez que Dieu s'est révélé
Il est tellement immense, tellement riche qu'il a choisi beaucoup de noms différents. Alors là, vous connaissez les noms, il y avait Jireh, il y avait Shalom, il y avait Nissi, etc. Dieu va se révéler, il va se donner plusieurs noms, des noms différents pour révéler ses caractéristiques, ses qualités, ce Dieu qui pourvoit, ce Dieu de paix, ce Dieu qui guérit, ce Dieu de justice. Et puis il y a un titre qu'il va se donner dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel des armées. Il se présente, il n'a pas peur de se présenter comme un chef militaire, en fait, comme un guerrier. C'est même le nom qui revient dans le cantique qui va être chanté. Vous savez que Myriam, la sœur de Moïse, pas la sœur de Daniel, parce que ceux qui savent que j'ai une sœur qui s'appelle Myriam. Myriam, la sœur de Moïse, elle va fédérer, elle va demander à toutes les femmes, après la sortie d'Égypte, de prendre des tambourins et ils vont chanter, ils vont danser sur ce cantique, ils vont faire la fête sur ce cantique que les Juifs ont l'habitude d'appeler le cantique de la mer. Le cantique de la mer. Merveilleux cantique. On a que les paroles, malheureusement. Mais les paroles sont extraordinaires. Et dans les paroles de ce cantique, on a celle-ci notamment. L'Éternel est ma force. C'est pas tout le début, hein. Mais assez proche du début. On a l'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut, il est mon Dieu, je lui rends hommage, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un guerrier. L'Éternel est son nom. Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses équipages d'élite ont été submergés par la mer des gens. Il est présenté ici comme un guerrier. Il se présente lui-même. Un chef de guerre. Ouais, c'est bien ce qui s'est passé, hein. Contre l'Égypte, avec l'armée égyptienne qui les a poursuivis. Et Dieu s'est présenté comme un chef de guerre. Un peu plus tard, lorsque les Israélites vont être sur le point, sont rentrés dans Canaan, ils sont sur le point de prendre Jéricho, vous savez la rencontre que Josué va faire. On lit ce texte. C'est pas Exode, hein, c'est Josué 5, mon erreur. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda, et voici un homme qui se tenait en face de lui, son épée nue à la main. D'évidence, vous savez, il pouvait y avoir danger. Josué marcha vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit, « Écoute, il y a deux camps ici, hein. Il y a Jéricho et il y a nous. Alors tu vas de quel côté ? À toi de décider. » J'aime bien la réponse. Il dit, écoute Josué, c'est moi le chef ici. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Alors Josué, c'est plutôt à toi de choisir. Si tu es avec moi ou si tu es contre moi. Vous voyez que Josué avait inversé les rôles. Il dit, toi, tu es avec qui? Celui qui vient à lui, lui dit, écoute, c'est moi le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Et Josué, lui, il n'avait plus qu'une chose à faire, c'est tomber le visage contre terre, se prosterner et lui dire « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur et le chef de l'armée de l'Éternel ?» dit à Josué « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Le chef de l'armée de l'Éternel. C'était plutôt rassurant pour Josué. Hein. Quand vous apprêtez la France de Jéricho, quand vous connaissez un peu Jéricho, vous dites si j'ai comme chef militaire le chef de l'armée de l'Éternel, ça devrait plutôt bien se passer. Hein. Et vous connaissez la suite, hein, je ne raconte pas. Plus souvent, je n'ai pas le temps de faire, bien sûr, beaucoup de détails. Chaque fois que Dieu va se révéler comme tel, chef de guerre. Mais il arrivera même que Dieu va se révéler comme un chef de guerre contre Israël. Là, c'était contre Jéricho. Avant, c'était contre les Égyptiens. Mais un jour, ça sera contre Israël. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce chef de guerre était en train de lutter contre le mal, il s'opposait au mal d'où qu'il vienne. Des païens, des non-juifs, ou même de son peuple. Cette divinité-là, ce n'était pas comme en général les divinités qui étaient adorées dans l'Antiquité, qui étaient des divinités tribales. Une divinité tribale défendait sa tribu, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle fasse. Et là, c'était un dieu qui luttait contre le mal. Et si le mal était pratiqué par son peuple, il allait s'opposer à son peuple. Ce peuple allait être puni, ce peuple allait souffrir. C'est tout cela qui a vraiment développé dans l'esprit des Juifs du temps de Jésus, qui étaient dans cette grande attente messianique. Pour eux, le Messie, ça devait être forcément un chef de guerre. Comme il avait été pour Jéricho, comme il avait été pour les Égyptiens, c'était un chef de guerre. Ils se disaient, le Messie qui va venir, ce sera un chef de guerre, ce sera un chef militaire. Et on en a besoin, parce qu'on a quand même Rome sur le dos depuis un moment, et on voudrait bien se défaire du joug de Rome. On voudrait bien se libérer. Comme nos pères ont été libérés du joug égyptien, nous on a besoin d'être libérés du joug romain. Et donc, si le Messie vient, ce sera un chef de guerre. Ils attendaient un chef militaire. Ils attendaient quelqu'un de puissant. Il va venir. Mais pas comme il attendait. C'est ce qui va les décevoir. Parce qu'il voulait, la seule chose qu'il voulait, c'est que le Messie puisse renvoyer ses Romains, qu'il puisse redonner à Israël sa puissance, son autonomie, sa force, comme du temps de David ou de Salomon. Ils voulaient ça. Ils s'attendaient à cela. Et c'est pas ce qu'ils vont avoir. Quant à la fin du ministère de Jésus, les soldats qui ont été envoyés par les principaux sacrificateurs, par les pharisiens, après la trahison de Judas, vont arriver dans le jardin de Gethsémané, en retour dans ce jardin, s'en est passé des choses, pour arrêter Jésus. Vous savez ce que Pierre va faire, hein? Encore Pierre. Ah, il était réveillé. Là. Ah là, il ne dormait plus. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son épée et il va vouloir défendre Jésus. Alors Pierre, c'était un bon pêcheur, mais un très mauvais soldat. On pouvait lui faire confiance avec un filet, mais pas avec une épée. Hein. Vous connaissez la suite, certainement. Et contre toute attente, dans cette guerre spirituelle, Jésus a accepté d'être arrêté, d'être condamné, d'être... d'être méprisé, d'être humilié, d'être perdant en fait. Que nous puissions avoir cette victoire. Vous vous souvenez quand Jésus va instituer le repas de Sanced et on termine la même manière que dimanche dernier. Il va avoir une phrase qui sera répétée à deux reprises dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc et dans la première aux Corinthiens, par Paul lui-même, quand il revient sur le repas de Sainte-Cène. Jésus aura cette phrase, « Faites ceci en mémoire. » Souvenez-vous. On pourrait avoir l'impression qu'on est appelé à faire cela une fois par semaine, quand on prend ce repas. Dans l'esprit de l'Évangile, c'est tout le temps. C'est tous les jours que nous sommes appelés à nous souvenir de lui. Souvenons-nous tous les jours, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a donné. Il n'a pas chassé les Romains. Il a fait beaucoup, beaucoup mieux que cela. S'il avait chassé les Romains, il aurait réglé le problème politique pendant un temps. Il a chassé celui qui était au-dessus. L'ennemi suprême, le diable lui-même. afin que nous ayons cette victoire. C'est contre lui qu'il s'est battu. Et c'est pour ça qu'il a accepté de perdre. Parce que dans cette mort, dans cette crucifixion, il nous donnait cette victoire. Et nous sommes appelés à nous souvenir de cela. Si le combat spirituel, c'est un combat permanent de tous les jours, nous devons nous souvenir de cela. Alors il y a un moment qui le marque très fortement, qui est le temps où on prend ce repas et là on se souvient de ce qu'il a fait, de ce qu'il a béni. Et demain matin, on en aura besoin encore. Et mardi, et mercredi, et toute la semaine, et tous les jours que Dieu nous donne, on aura besoin de se souvenir. Donc si on revient, quand est-ce que nous devons prendre les armes? Tous les jours, tout le temps, sans cesse. Qu'est-ce que ça signifie de prendre les armes? C'est vraiment s'approprier. La foi, on l'a, c'est maintenant l'utiliser, s'en servir. Et faire cela en se souvenant tous les jours de lui. On va prier ensemble.